Bonjour tout le monde. Enfin, elle commence cette émission de Spectaculaire, émission numéro 202, émission palindromique, en ce mercredi 3 juillet 2019. J'ai entendu dire que c'était l'anniversaire de certaines personnes, alors en ce cas, heureux anniversaire à ceux qui sont nés un mercredi 3 juillet. Pour les autres, heureuse émission que nous allons passer en compagnie, en fort bonne compagnie, Christophe Rollin au micro, Gérald est présent, ainsi que Catherine Fèvre, déjà venue de la crèmerie Saint-Antoine, émission 126. Julien est également venu. Alias Gustave, il va reparler de ce Jaja Power, est venu très récemment émission 200, c'était donc il y a 2 semaines, mais il n'avait pas assez abordé ce que va être ce festival de vin qui commence aujourd'hui, mercredi 3 juillet, se termine le lundi 8, la semaine prochaine. Donc nos deux invités vont parler de vin pour Catherine Fèvre de la Crèmerie Saint-Antoine et de fromage pour... J'inverse. Du fromage pour Catherine Fèvre de la Crèmerie Saint-Antoine et de vin pour Gustave. À l'Odessa Comptoir, j'ai pas indiqué cette adresse, le Jaja Power qui commence ce 3 et se termine le 8. Adresse, c'est sur la rue Leno en face du passage Thieffet. Voilà, tout va être annoncé dans l'émission. Nous diffusons jusqu'à 15h comme tous les mercredis. C'est le 102.2 de la bande FM à Lyon. Si vous nous écoutez à Lyon, vous le faites très bien. Si c'est sur internet, c'est radiocanu.org. Émission 202 jusqu'à 15h comme tous les mercredis. On va commencer avec Pierre Perret, un extrait de son album La Corinne, érotico-comique. Vous allez voir ce que c'est. Commençons Pierre Perret et ensuite vin et fromage avec Gustave et la Crèmerie Saint-Antoine.
Très rousse aux longs yeux verts, d'un ablement fendu, je la suivis chez elle et bientôt sans chemise. Sur son lit de bataille, elle se trouva mise, offrant à mes ardeurs tous les fruits défendus. Le chignon inondé de sa fauve avalanche, le torse au grand prurite de cette putifare, le nombril incrustait sa fleur de nénuphar. Au lobe de son ventre, un gâteau de chair blanche. Cet étain était d'ambre, des filets de carmin. Il tenait tout entier dans le creux de ma main. Elle entr'ouvrit le centre, unique où tout converge. Son poil roux brasillait de flammes me dardant. Moïse, c'est à vous, dans ce buisson ardent, que je songeais frappant le doux roc de ma verge. Très rousse aux longs yeux verts, d'un ablement fendu, je la suivis chez elle, et bientôt sans chemise. Sur son lit de bataille, elle se trouva mise, offrant à mes ardeurs tous les fruits défendus.
Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Canus 102.2 pour une émission spéciale en compagnie de deux invités, Julien Beutre alias Gustave. Bonjour Gustave. Et Catherine Fèvre, déjà venue lors d'une précédente émission consacrée au fromage. Aujourd'hui c'est fromage et vin puisque Julien s'occupe de, notamment...
Oui, je travaille à Odessa Comptoir. Odessa Comptoir, donc du coup pour donner l'adresse, 14 rue René Leno, c'est en face du passage Thieffet, et surtout ce qui se passe à Odessa Comptoir qui commence aujourd'hui, c'est le Jaja Power Festival. C'est un festival de vin nature, on invite des vignerons du 3 au 8, donc ça commence aujourd'hui, ça termine lundi. C'est la deuxième édition, et voilà, le vin naturel, ça va très bien avec le fromage, quand c'est bien fait.
On reparlera tout ça plus en détail, ouais. Catherine.
Alors, nous, c'est le festival des fromages tous les jours, 365 jours sur 365. Et donc, nous sommes basés sur le quai Saint-Antoine, l'ex-ventre de Lyon, au numéro 20.
en face du comme pont Alphonse Juin. Oui, ça c'est très bon, le numéro 20. Veillenne, hein, c'est
exactement.
Ça. En face du pont Alphonse Juin, et c'est très central. C'est au bout de la rue Mercière, c'est ça. C'est, on continue. Non, pas la rue Mercière.
Pas du tout.
La rue Grenette. La rue Grenette. On continue la rue Grenette. On tourne à gauche.
C'est ça.
Et on attrape.
Et on sent déjà les odeurs.
Il y a un petit panneau blanc dans la rue. Donc, chers auditrices, chers auditeurs, bonjour. Nous allons consacrer cette émission culturelle à la culture culinaire.
La dernière de la saison. On relâche ensuite. On reprend pas en juillet ni en août. Septembre peut-être. Ouais, de deuxième quinzaine. Il est question qu'on parle de peut-être musée de l'imprimerie, de la communication graphique. Et puis, biennale, tu me disais, biennale, je sais plus quoi.
C'était... Hors les normes.
Hors les normes.
Qui se tiendra fin septembre, on fera une émission. Mais pour l'instant, on s'intéresse à l'art culinaire. On vient d'écouter un petit Pierre Perret de chansons érotico-coquines. La bonne chair, la bonne bouffe.
Très bien.
Et voilà quoi. C'est la vie.
C'est un beau programme.
Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est, on va discuter de manière très technique avec Julien et Catherine. Alors, Catherine, je vous renvoie à cette émission 126 pour la préparation du fromage à base de présure, le petit lait qui peut être très bon, Gérald, pour nourrir les soldats de retour du camp de concentration. Enfin, c'était une émission d'une richesse absolument incroyable.
Voilà ce qu'il a retenu.
Donc, non, mais parce qu'il y avait tout un tas de choses. Et puis, sinon, donc, également beaucoup de jargon avec Julien dans quelques instants. Mais là, je crois, Gérald et Catherine, vous avez préparé quelque chose, c'est ça?
Peut-être pas tout de suite, pas c'est comme suite. Vous voulez. On va peut-être commencer à explorer l'histoire du vin naturel, le concept.
Ah oui, le vin naturel.
Puis après, on fera des petites surprises musicales en direct, s'il vous plaît.
Des pastilles.
Eh ben oui, donc le vin naturel, qu'est-ce que c'est, enfin, puisque je parlais tout à l'heure de vin naturel, c'est ce qu'on représente à Odessa. On représente le vin naturel, pas que des produits, on représente aussi des vignerons. C'est le principe, enfin avant toute chose, même les hommes qui sont derrière la fabrication du vin. C'est le principe justement du Jaja Power Festival, c'est qu'on invite des vignerons à présenter leur travail. C'est une autre manière de les rencontrer que le traditionnel salon de dégustation qui est une forme connue. Et là, c'est plus vraiment sur un principe de festival. Nous, on est un bar, on garde vraiment cet aspect bar, c'est entrée gratuite, personne ne paye pour rentrer dans un bar. Mais par contre, voilà, c'est les consommations classiques. Et en fait, les vignerons sont avec nous derrière le comptoir, présentent leurs produits. Alors, il y a toujours une petite séance de dégustation, on va dire, au début. Et puis ensuite, c'est la fête, comme dans n'importe quel bar. Là, ça va être une semaine de bonnes soirées de fête. Avec tous ces vignerons invités, et on invite aussi à chaque fois en relation avec la soirée, parce que chaque soirée c'est un terroir qui est présenté, une région, on invite un cuisinier ou voilà, quelqu'un de la restauration et qui vient faire un petit accord, présenter quatre assiettes en accord mais vin, en accord on va dire avec l'ambiance du territoire présenté.
J'espère voilà. Qu'il y a du fromage.
Et bah c'est laissé à l'appréciation des cuisiniers, mais ouais, ça m'étonnerait pas qu'il y en ait. Moi, j'ai
peut-être une petite question. Gustave, vous parlez à l'instant de bar, vous insistez beaucoup sur ce terme-là. Néanmoins, Odessa est plutôt qualifié de comptoir.
Ouais. Alors, c'est vrai. Non, c'est vrai. En plus, ça s'appelle Odessa comptoir. Des fois, on dit juste Odessa, mais c'est vrai que le nom, c'est Odessa comptoir. Dans l'idée, enfin, je suis un arrivé récent. Aujourd'hui, Odessa, ça fait 2 ans que ça existe. Moi, ça doit faire 6 mois vraiment que j'y suis. J'ai commencé à fréquenter en tant que client et j'ai intégré l'équipe.
De l'autre côté, le côté obscur.
Ouais, voilà, le côté obscur du comptoir. Mais en fait, c'est vrai que dans la tête des fondateurs, des deux frères de Mathieu et Antoine qui ont fondé l'établissement, il y avait vraiment cette idée de pas faire un café, un bar ou quoi que ce soit. C'était vraiment d'avoir une cuisine une cuisine et une ambiance de comptoir. C'est-à-dire, c'est ce côté, comment dire, sans prétention, où on peut manger debout, simplement, de la cuisine, de la cuisine et boire du bon vin aussi, forcément. Et tout ça allait bien, ouais, vraiment, avec cette ambiance de bistrot.
Est-ce qu'il y aurait une différence avec le terme de bar? Non, ou c'est seulement que c'est un terme peut-être en deux syllabes, ça
non, mais
plus,
je pense que c'est, y a pas la même, si on veut être précis, je pense que c'est pas la même ambiance, en fait, dans ce qu'on peut imaginer être un comptoir, quand aujourd'hui on a plein de bars, mais qui sont plus je sais pas si c'est stéréotypé le terme, mais bon, en tout cas, nous, c'était, à mon avis, c'était pour amener une forme d'authenticité qu'on retrouve en fait dans l'esprit du vin qui est présenté, puisque je rebondis sur la question que oui. tu m'as posée tout à l'heure, oui. sur qu'est-ce que c'est que le vin
voilà.
naturel.
Le fameux, voilà.
voilà. En fait, le vin naturel, pour aller vite, c'est ça a toujours plus ou moins existé dans l'histoire du vin, puisque dès les années 50-60, quand on a commencé à industrialiser la production, il se trouve que dans le Beaujolais, donc vraiment une région très proche d'ici, il y a eu les premiers vignerons à travailler, à vinifier de manière naturelle. Donc vinifier de manière naturelle, c'est-à-dire sans toute la chimie de synthèse, sans les adjuvants et les procédés trop techniques qui viennent normaliser en fait la production du vin.
Et qui sont très nombreux, hein, c'est ça ?
Il y a plusieurs centaines de d'adjuvants et de procédés techniques.
Que pour le vin, il y a le sol aussi avant.
Voilà,
parce qu'il y a Monsanto derrière tout ça à la base.
De la fabrication du vin. Et il y a aussi évidemment toute la chimie de synthèse qu'on retrouve dans les vignes. Or, le vin naturel, c'est précisément ça, des raisins sains, bio, mais on peut se passer aussi du label bio, ça dépend de comment est-ce que travaillent les vignerons. Il y en a qui veulent pas s'embarrasser avec toute la paperasse des cahiers des charges et qui travaillent néanmoins très bien. Et ensuite, il y a tout l'aspect vinification où là, en gros, pour aller vite, on peut dire que c'est simplement le fruit fermenté. Voilà, il y a pas de levure extérieure, exogène, il y a pas de chimie qui vienne dedans, il y a pas d'ajout de sucre ou d'eau. Il y a vraiment les raisins qui fermentent.
Reste la question du sulfite. Parce que c'est le processus de vinification produit lui-même des sulfites. Et un vin sans sulfite existe-t-il ?
Voilà, non, ça n'existe pas. Par contre, il existe des vins sans sulfite ajoutés. Voilà. Et ça, c'est ce que promettent les vins naturels. Alors, il y a une espèce de marge de tolérance où on accepte environ, on va dire, 10 fois moins de sulfite à la mise en bouteille que dans les vins conventionnels, puisque c'est le seul moment où on tolère, au moment de la mise en bouteille, de mettre quelques grammes de soufre, dixièmes de grammes oui. de soufre, pas dizaines, effectivement, c'est plutôt dans le conventionnel qu'on trouverait ça, mais du coup, ça c'est éventuellement si certains vignerons sont sur certains millésimes moins sûrs de leur travail ou que le vin doit voyager, ça peut se faire dans ce cas-là.
Je vois Catherine opiner du chef. La Camerie Saint-Antoine vend du vin.
Oui, on vend du vin.
Alors des fromages, bien entendu.
Et j'ai fait des études d'œnologie à Suse Larousse. Oui. Et j'étais la petite bête noire à toujours parler du vin nature. Donc je suis déjà très très orientée vin nature. Toutefois, on ne vend pas de vin nature à la crèmerie, ou très peu, dans le sens où on a déjà 150 sortes de fromages à expliquer. Si ensuite il faut expliquer le vin nature, le processus et surtout comment le conserver chez soi, c'est-à-dire, t'en as pas parlé Julien, mais bien évidemment, parfois on va avoir un vin un petit peu perlant, donc on va devoir le dégazer à la main, il va faire le carafer, on va avoir un peu de réduction, et donc tout ça, ça fait que si je dois expliquer ça en plus du fromage, je pense que mes clients vont me regarder avec une tête grosse comme une citrouille et épuisée d'avance.
Mais alors comment,
donc on a des vins,
voilà,
mais alors
le choix,
la base c'est bio, c'est vraiment la base, c'est bio, et on essaye au maximum d'être en biodynamie. Voilà. Avec des domaines. Enfin, on a une gamme assez. On garde quasiment toujours la même, en fait. Voilà.
Petit rappel, la biodynamie ?
C'est une discipline qui est issue de la théosophie, c'est Rudolf Steiner, pour donner un peu une référence. Mais en gros, c'est un travail de cohérence entre, on va dire, les astres. Les signes aussi qu'on peut interpréter de ça, puisque il y a vraiment une notion de pouvoir déduire d'un aspect formel des choses. Ça va parfois jusque même dans la microbiologie, puisqu'on va voir la forme des cristaux aujourd'hui sur la version la plus contemporaine de la biodynamie. Donc, enfin bon, petite parenthèse, mais c'est pour dire voilà qu'il y a un aspect comme ça contemplatif formel, et comment est-ce que en harmonie on va traiter le sol en fonction des saisons, des astres, des calendriers lunaires, etc., avec des recettes de décoction, voilà, de décoction particulière, de plusieurs parties, de choses comme ça.
Vous avez des adresses alors, Catherine ? La Crèmerie Saint-Antoine recommande-t-elle à ses clients qui veulent déguster vos fromages avec des vins particuliers ? Est-ce que vous pouvez recommander ? Oui, allez donc en face, ou allez à telle enseigne, chez par exemple Nicolas, peut-être, ou je sais, est-ce que vous recommandez, ou non, pas forcément, vous dites, bah écoutez, voilà, vous pouvez trouver telle et telle bouteille, allez où vous souhaitez, parce que là maintenant, vous pourrez dire, allez au comptoir, Odessa Comptoir.
Ben
alors
voilà,
c'est un peu plus loin, il faut donc monter, c'est légèrement sur les pentes, c'est au début des pentes. Nantes. Et puis ouais, c'est quand même le passage.
Oui, on reste sur la presqueîle. Hein.
Ouais. Ouais, ouais. Mmh. Et oui, donc enfin non, vous.
Pas non,
forcément.
En fait, en général, donc si les vins qui sont, la demande n'est pas dans ce qu'on a en gamme à la crèmerie Saint-Antoine, effectivement, on conseille aux gens d'aller autour de chez nous. S'il y a une demande plus spécifique en vin nature, moi, je connais bien les adresses de. De cavistes en vin nature, bien évidemment. Gérard, donc on sait orienter les clients aussi en vin. Voilà.
Est-ce qu'on la pose cette question ? Pourquoi est-ce que l'émission va marcher comme cela, marche comme cela aujourd'hui ? Pourquoi est-ce que de manière générale c'est associé ? Vin et fromage, c'est quoi le truc ? Pourquoi est-ce que ça se... Pourquoi c'est même pas association, c'est plus c'est un mariage.
Pas forcément rouge.
Mariage de cœur, de raison.
Non, mieux, il paraît-il.
Oui. Le blanc ou les rouges légers, on en parlait avec Julien tout à l'heure. Mmh. Il faut pas, enfin, le tanin est un peu l'ennemi des fromages, c'est globalement. Il faut pas écraser le fromage, il faut pas écraser le vin. Donc c'est ça, en fait. Mmh. Il faut vraiment trouver... Et l'accord parfait.
Pourquoi ça peut s'accorder alors ?
Alors moi je trouve que déjà, moi je me,
Catherine,
j'ai l'impression que déjà on parle tous les deux de fermentation.
Ouais.
Et en fait il y a vraiment un lien. On vend aussi de la bière à la crèmerie, on vend de l'ail fermenté, de l'ail noir. Mmh. En fait nous on s'intéresse beaucoup à la fermentation.
Ben ouais, nous aussi.
C'est la base du produit et la base du produit, enfin du vin, c'est la fermentation.
Bien sûr.
Sinon on n'a pas de vin. On a.
C'est les voilà les levures et ouais ouais. Il y a effectivement, alors c'est vrai que c'est un sujet moi qui m'a, sur lequel je voulais arriver, sur les histoires de cuisine fermentaire en gros, et puis de procédés de fermentation. Il y a aussi, je pense, c'est la notion de terroir, et qui est, moi, m'intéresse beaucoup, parce que c'est, on en parlera peut-être, parce qu'il y a toute la question qui avait été abordée dans l'émission que tu avais faite avant sur les AOP, les AOC, ce genre de choses, et le vin naturel, justement, c'est aussi quelque chose qui cherche à faire un pas de côté par rapport à ces cahiers des charges-là, qui avaient du sens à un moment donné, mais qui sont venus, en fait, aplatir la production, normaliser tout, jusqu'à normaliser le goût, puisque en fait aujourd'hui c'est ça qu'on reproche, ou en tout cas c'est ce que des vignerons un peu rebelles ont reproché à un moment donné, c'était de plus pouvoir avoir la liberté d'expression dans leur travail et du coup de pas pouvoir avoir un goût significatif. Or dans le vin naturel, et c'est probablement le cas aussi avec le fromage, on parle parfois de vin d'auteur, puisqu'il y a des gens qui ont vraiment des styles et des signatures. Et donc voilà, c'est pour ça qui peuvent être, d'après moi, vraiment modernes. Enfin, on en parle avec certains collègues. On dit, waouh, là, on touche à quelque chose. C'est vraiment
c'est de l'art essai, quoi.
Bah oui, et puis ça correspond au goût de l'époque. On sent qu'il y a une, je dirais, une actualité, une présence dans le vin.
Un caractère.
Et c'est pour ça que c'est la notion de terroir. Je reviens là-dessus parce que c'est une notion qui est hyper importante si on tient à être un petit peu justement d'actualité sur ce sujet-là. Mm-hmm. Parce qu'en fait, c'est une notion vivante. Elle a été un peu glacée, cristallisée au moment des AOC, des AOP, des choses comme ça. Enfin, en tout cas, elle a fini dans cette glaciation-là. Mm-hmm. Et aujourd'hui, les cartes sont rebattues, en tout cas sur le vin. Mais remettre en jeu en fait cette notion de terroir, parce que le terroir, on pourrait dire, c'est quasiment un triangle. Il y a la notion de géo, enfin de géographie, de géologie, de climat. Il y a la notion d'espèce, de donc là en l'occurrence
cépage.
Ça va être le cépage, mais ça va être aussi les types de lait. Et il y a le travail de l'homme, il y a le travail de la main, le savoir-faire, bien sûr, mais qui est en fait ces trois notions sont interdépendantes. Je pense que c'est ça en fait, il me semble, c'est pas moi qui le dis, je l'ai aussi lu ailleurs, mais voilà, c'est comme ça qu'on pourrait définir le terroir. Et justement, c'est dans cette actualité là, dans cette remise en jeu à travers les vins naturels, en fait, on remet ce circuit-là en route, et il y a notamment du coup des vignerons qui vont réintroduire des cépages dans des territoires où on va dire les AOP ne les autorisent, AOP AOC les cahiers des charges ne les autorisaient pas, vont avoir des techniques de vinification issues d'autres terroirs, mais qui vont être adaptées aujourd'hui à une certaine manière de faire du vin par rapport à leur vision aussi, et puis au terroir qui travaille. Enfin, donc voilà, c'est ça qui est remis en jeu, qui rebat les cartes. C'est ça qui est intéressant.
On peut complètement transposer ce que tu dis dans le fromage, et c'est encore là, il y a un lien énorme, ce que tu disais, Christophe, tout à l'heure. C'est effectivement, il y a un lien historique et de terroir, c'est évident. Et en fait, nous, on est aussi rebelles dans le sens où on choisit pas de vendre un fromage parce que c'est une AOP. Mm-hmm. Au contraire, en fait.
Ouais, ouais.
Il y a des AOP tellement laxistes aujourd'hui, effectivement, qu'on essaie justement de contrecarrer un petit peu cette standardisation du goût, comme tu le dis.
Ouais, ouais.
Et ça, c'est très important pour nous de démarquer comme ça. Par exemple, on pourrait très bien vendre un salaire qui est une AOP. Mm-hmm. Et on a décidé de vendre un salaire tradition. ouais. lait de salaire tradition, on n'a pas besoin de ferment, puisque le lait est tellement riche,
ouais, voilà.
puisque c'est 100% lait de salaire, de vache salaire, que fondamentalement le fromage a du goût naturellement, sans adjuvant, comme tu le disais dans le vin. Donc on se retrouve
là. S'il n'y a pas trop d'antibiotiques dans la vache, la salaire, je crois qu'on disait ça, la salaire, moi, c'est salaire. La salaire. D'accord, le salaire, la salaire de la peur.
Et moi, je me demandais, le vin d'auteur, mais c'est absolument terrible ce que vous dites, Gustave, Julien, c'est un auteur qui disparaît, donc le vin disparaît. Ou alors non, le savoir-faire peut être conservé par des
oui, et puis en fait, je veux dire, c'est la vie de cet auteur-là, la vie du vin. C'est vrai que des fois, ça m'arrive d'avoir ce genre d'émotion, c'est-à-dire oui, en fait, d'émotion, bien sûr. C'est mais en même temps, c'est le vin, c'est-à-dire que chaque millésime est différent. Il y a des millésimes qui sont perdus parce qu'ils ont été bu, et puis voilà. Et mais il restera toujours du vin, il restera toujours des gens pour le faire. Et en fait, l'important c'est, je pense, à mon avis, ce que fait d'une certaine manière Odessa, c'est de populariser cette culture-là pour qu'il y ait de plus en plus de gens qui s'y intéressent, de plus en plus de gens qui le fassent et qui le fassent bien. Et c'est ça qui fait que la culture est vivante. Le vin. Et d'ailleurs, on parle de vin vivant dans le vin naturel, dans le cas du vin naturel. C'est parce que tout ça, en fait, fait vraiment du sens. Ça sert à rien de lénifier ces auteurs-là, ces millésimes-là. Bon, bah, ça fait partie de la vie, quoi. Ils disparaissent et puis, en fait, ils nourrissent on va dire quelque part, le souvenir, ça nourrit tout ça. On essaie de, parce que dans le vin naturel, il y a cette idée d'atteindre un peu une espèce de vin idéal, de vin premier, de vin pur. Mais ça, en fait, on sait très bien que ça n'existe pas. C'est un genre de mythes, de souvenirs partagés, et alors personne n'aurait goûté ce vin-là, mais en fait, du coup, tout le monde, c'est l'aspiration un peu globale, on essaie d'aller vers la pureté, le fruit, pas d'adjuvant, etc. C'est ce qui fait marcher tout ça, quoi.
Les goûts évoluent, et puis le réchauffement climatique évolue aussi.
Ouais.
On en parlera peut-être après.
Oui.
Bon, tout ça, ça me chatouille les papilles. Il est 14h23. Et vous êtes bien sur Radio Canu, on parle vin et fromage.
C'est une pastille qui commence là, j'ai l'impression,
et
c'est
ça. Et on va peut-être même faire une petite chanson.
Une chanson.
Qui a été écrite, je le précise, par notre invitée Catherine Fèvre, qui est la reine du pastiche.
Alors,
visiblement.
Attends, voilà, écrite pour ce qui est de composer, enfin comment dire, mais la partition.
Un pastiche.
Voilà, c'est un pastiche.
Donc on garde, c'est quoi un pastiche? On garde un morceau, on en garde le nombre de pieds, la mélodie, et on change toutes les phrases. Ah ben voilà. Oh là là, ça chatouille.
Est-ce que vous conservez, est-ce que vous nous indiquez le nom de...
Après,
on va reconnaître.
Après, il y aura une explication de texte.
Forcément reconnaître.
Bon. Catherine expliquera sans doute...
Une introduction, un titre peut-être, non?
Quelques fromages. Alors ça s'appelle comment d'ailleurs?
Ça s'appelle pas, ça se chante.
Ça se chante. Je raccorde l'ami grave qui avait vraiment bougé. Il fait très très chaud dans le studio. Hein.
De fromage blanc déclare la guerre au camembert,
au camembert.
Mais le Canu n'a pas voulu, car le Roquefort était trop fort, encore plus fort. C'est son copain le sous-marin et son compère le Munster qui finance avec abondance la paix méritée du Morbier.
Et du Morbier.
Au bal, il rencontre le Cantal avec les fontés de Comté.
Et le Comté,
le non moins sage bleu de Sassenage. Ils finiront chez le Picodon
et tout ça fond.
Un régiment de fromage blanc déclare la guerre au camembert.
Au camembert.
Mais le Canu n'a pas voulu, car le Roquefort était trop fort.
Encore plus fort.
C'est son copain le sous-marin et son compère le Munster.
Et le Munster
qui finance avec abondance la paix méritée du Morbier.
Et du Morbier.
Au bal, il rencontre le Cantal avec les frontés de Comté.
Et le Comté,
les non moins sages bleus de Sassenage. Ils finiront chez le Picodon et tout ça fond.
h 27, vous êtes bien Vous très très bien d'ailleurs sur Radio Canus spectaculaire émission 202 mercredi 3 juillet 2019. On n'est pas en haute montagne en altitude. Néanmoins on est dans un terroir là. Hein. Gustave, Catherine, ouais c'est un terroir ici. C'est quel terroir alors,
C'est fromage. Là. C'est nom de fromage. C'est quoi?
Alors c'est nom de fromage. C'est déjà pour faire la rime.
C'est important.
Est-ce que je peux dire ça? Oui. Et ensuite, j'ai quand même choisi, vous allez le voir dans les deux autres pastiches que j'ai fait, c'était pour les trois anniversaires de la crèmerie. Donc ce premier pastiche a été fait pour la première année, le premier anniversaire. Et j'ai choisi quand même des fromages que j'affectionnais particulièrement, je dois dire, ou des fromages locaux, ou des fromages dont on n'entend jamais parler, genre le sous-maintrain, je ne sais pas si quelqu'un connaît, mais on parlait d'AOP tout à l'heure, c'est une IGP, c'est une des dernières IGP. Okay. Très peu de producteurs. On est dans la famille des époisses, une croûte lavée.
L'émission s'était terminée il y a deux ans, on n'avait pas pu indiquer, vous n'aviez pas pu donner, Catherine, votre top 5. Donc là, vous le faites plus ou c'est top 10, là, c'est ça, c'est
alors, pas dans cette. Pas dans ce premier pastiche.
Non,
pas dans ce premier pastiche.
Mais j'avoue. C'est quand même des fromages que. Non, alors voilà,
J'ai toujours du mal. Trois ans après, j'ai toujours du mal à trouver un top 5.
Bon, ou un top 10 ou un top 15. Non
voilà.
C'est pas très important. Hein.
Si, alors un top 15, c'est peut-être possible. Mais en tout cas, dans les chansons après, dans les pastiches qui vont suivre, Oui, c'est pas fini. Et c'est pas fini.
Ah non, il reste encore beaucoup de choses à dire. Dates très précisément, ou des moments, ou des vins. Je crois que Gustave est venu avec une bouteille très particulière, donc il faut évoquer du vin georgien à l'honneur ce soir ou demain, donc encore beaucoup de choses à dire. Catherine, ouais. Oui, poursuivez, je vous en prie.
Non, c'est juste que dans les deux autres pastilles, j'affine un peu mes préférences. Voilà, donc un peu de suspense.
Affiner, le terme est très bien choisi. Voilà.
Je confirme que le bleu de Sassenage est excellent. Et il est tout à fait abordable et a un goût de champignonné très très agréable.
Oui. Hein, et on l'affine particulièrement, c'est-à-dire quand on le reçoit... Il est très très doux et nous on aime bien pousser jusqu'à ce qu'il ait un peu de caractère et qu'il se défende bien.
L'art de l'affinage.
Ouais. Oui.
Et ça revient à dire, en fait, ça revient à reprendre un peu la discussion qu'on avait entamée tout à l'heure sur le ferment, en fait, sur les ferments. Et en fait, ce dont tu parles, Gérald, ou vous parlez, pardon, Gérald.
Oui.
De goût champignonné. C'est marrant parce que c'est vraiment quelque chose, ce nez de sous-bois, c'est quelque chose qui, c'est une typicité qu'on retrouve dans certains vins, dans certains terroirs, enfin notamment moi ça m'évoque les terroirs du Jura, et qui font partie de mon top 5 du coup. c'est quelque chose qui va être plutôt, je pense, recherché. D'ailleurs, en fait, c'est ce qui, même, à mon avis, a disparu avec la normalisation du vin, puisque ça peut avoir ce côté sous-bois, humus. Ça peut faire penser plutôt à de la décomposition, donc des choses qu'on va vouloir masquer.
Oui.
Ça peut même parfois aller vers des odeurs plus fortes, plus désagréables. Mais on a souvent le cas dans le vin naturel d'avoir un nez très différent de la bouche, en fait. Et ça, il faut du coup réapprendre ces choses-là, se réhabituer. Et c'est directement lié du coup à la fermentation du vin. Ça m'évoque tout ça parce que c'est des choses que je recherche et qui procurent énormément de plaisir.
À nouveau dans le fromage, c'est identique.
Ouais.
Ça sent souvent plus fort que ça ne goûte.
Ouais. C'est vrai. Ouais.
Et c'est très différent aussi au fur et à mesure des semaines voire des mois d'affinage. C'est plusieurs fromages. Fromage. En un.
D'accord.
Alors, évoquons peut-être une bouteille comme ça en particulier, ou alors un vigneron en particulier. C'est ce soir ou demain, je ne me rappelle plus ce que nous sommes dit tout à l'heure.
Du coup, je vais en profiter même pour faire le petit moment où je donne le programme.
Jaja Power Festival, deuxième édition.
Exactement, qui commence ce soir, donc le mercredi 3 juillet. C'est l'ouverture. Ce soir, on invite la Géorgie. C'est assez exceptionnel. On est content vraiment parce que la Géorgie c'est la terre d'où vient le vin.
Historiquement,
enfin en tout cas disons le plus vieux vin daté a été retrouvé en Géorgie.
Quelle date?
Il y a 4000 ans je crois.
En Mésopotamie alors.
Il me semble que c'est la Géorgie. Hein. Moi, j'ai, en tout cas, j'ai toujours
l'Égypte.
Entendu ça.
C'est l'Égypte qui a inventé la bière.
C'est pour la bière, voilà.
Oui, c'est ce que je t'avais entendu dire.
C'est parce qu'il boit beaucoup de bière.
Il connaît très bien le sujet. Et donc voilà, c'est Artana Wines qui est invité et qui représente deux autres vignerons géorgiens. La Géorgie spécialisée dans le vin orange. Alors le vin orange, qu'est-ce que c'est ? Grossièrement, c'est un vin blanc fabriqué comme un vin rouge. C'est ce qu'on appelle des vins de macération. Les peaux sont laissées avec le jus. C'est ce qui va donner les tanins. Et donc voilà, on a un vin blanc tannique. Alors en plus, la particularité des vins géorgiens, c'est qu'ils sont souvent vieillis en amphore. Ça donne encore plus cet aspect terreux. Donc c'est assez particulier. Voilà, si vous voulez, venez passer ce soir au Jaja Power Festival. Vous aurez vraiment l'occasion, puisqu'il y a une dégustation d'abord et ensuite tous les vins géorgiens sont au vert.
Mais alors peut-être ennemi du fromage, hein, s'il y a du tannin dedans, non ? C'est ça, alors, Catherine ? Je parle sous le contrôle.
Pas forcément. C'est-à-dire qu'il y a en fait. Le meilleur accord, c'est le vôtre. Finalement, on ne détient pas la vérité. On a tous un palais différent. C'est ça qui est génial, c'est qu'on est tous uniques. Il y a un seul accord que je pense qu'on est tous d'accord pour ne pas trop le recommander. C'est du rouge bien tannique avec une croûte fleurie, c'est-à-dire type camembert, brie, coulommiers. Là, ça c'est chimique et il se passe dans la bouche qu'on a un ion hydrogène qui disparaît. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on a des goûts métalliques. Qui se développe. Donc on peut aimer les goûts métalliques finalement. Si quelqu'un me dit j'aime le goût métallique, et ben très bien en fait. Donc le meilleur accord c'est le vôtre. Mais effectivement, quand on en a parlé ce matin avec Julien pour faire un accord avec les fromages que j'allais apporter,
très préparée.
Oui. il m'a dit je vais prendre un rouge léger. Et j'ai dit c'est parfait. En fait, souvent on recommande, comme tu le disais tout à l'heure, Gérald, des blancs. De plus en plus aujourd'hui, même si beaucoup de gens sont encore bien attachés à l'accord fromage rouge. Mais finalement, on peut trouver des accords avec des rouges légers, ça se fait très très bien. Avec plein d'autres alcools alors, d'ailleurs.
Dans les blancs, c'est quand même sec, moelleux, doux. Enfin, il y a quand même un paquet de.
Alors, moelleux, c'est sucré. Intéressant ce que tu dis parce que moelleux peut très bien aller avec les bleus, les persillés.
Mais vous, personnellement, Catherine,
je souviens
émission 126.
Et les secs
Catherine
avec
n'aime pas
chèvres,
le sucré. Plutôt.
Je n'aime pas le sucre,
pas
mais quand même.
Mais ça, c'est votre goût.
Mais quand même, on a des fromages affinés à la bière, au malt.
Frotté.
Alors, on en avait parlé, je pense, à l'émission 126. Depuis,
mars 2017,
on a un petit peu avancé là-dessus. On aime bien s'amuser. Et donc, on frotte beaucoup à l'alcool. C'était déjà le cas à l'époque. Mais maintenant, on essaye de retravailler aussi des produits. Par exemple, on s'est intéressé à un fromage un peu vieillot, on va dire, oublié. Il s'appelle le coulommier. C'est pas une appellation. On va dire que c'est un gros camembert ou un petit brie au niveau du format. 600 grammes. Croûte fleurie, donc pâte molle, lait cru. C'est notre producteur de Brie de Meaux qui nous le fabrique. Et on s'est dit plutôt que de farcir, entre guillemets, un camembert ou un brie, ce qui est souvent utilisé par d'autres fromagers, on va farcir un coulommier pour faire connaître ce produit. Et on le farcit en fonction des saisons. Donc là, en ce moment, on est sur un pesto d'ail des ours. Donc je suis allée cueillir de l'ail des ours. J'ai récupéré 4 kilos d'ail des ours. J'ai fait un pesto et on farcit notre coulommier à l'ail des ours. La semaine prochaine, on démarre avec le basilic. Et en début d'année, on a fait à l'ail noir. Donc j'en ai parlé tout à l'heure. Donc ça, c'est vraiment très intéressant avec le coulommier. Donc ça mélange les saveurs. On essaye de s'amuser un petit peu en dehors de l'alcool parce qu'on a eu une étiquette un petit peu fromage-alcool. Voilà, c'est un peu facile. Mais effectivement, tu me parlais des vins moelleux. Je trouve que quand même, ça va très très bien avec les persillés. Et j'aime beaucoup les persillés, les bleus.
D'autres dates encore.
Jaja
Power Festival, deuxième édition.
Ouais, tout à fait. Donc voilà, donc ça c'était la première date, c'était la Géorgie. On continue ensuite le jeudi, donc demain, avec le Languedoc. Et donc là, j'ai ramené une bouteille du domaine Mada, Édouard Adam. Justement, alors je t'avais dit un vin rouge léger et j'ai finalement un rosé du Languedoc, mais c'est pareil, on est sur un vin sans tanin et un petit rosé de Grenache, 100% Grenache.
Mais voilà. Concrètement, les vignerons viennent avec quoi, 10, 20, 50 bouteilles, c'est ça?
Mais effectivement, ils viennent avec leur cuvée, ils présentent leur cuvée, ils présentent leur travail. Il y a un moment de dégustation. En tout cas, je sais que pour la Géorgie ce soir, il y a un moment de dégustation.
Il y a un horaire précis ou c'est...
Ça commence à 17h.
Que la canicule est tombée un peu.
Ouais. Bah, on ouvre, on commence à 17h. Après, on sait très bien qu'il y a une montée en puissance. Mais
donc, c'est-à-dire, la présentation des
ouais, voilà, il y a un petit moment.
Plusieurs fois, non, c'est ça? Ou c'est il y a des rappels ou
pour la dégustation? La dégustation, ça a lieu un peu au début. Ou en fait, c'est un peu au feeling du vigneron. Si jamais le vigneron a envie de se garder des bouteilles et de régulièrement passer dans le public, faire déguster.
Vous avez espace terrasse un peu ou c'est...
Ouais. Enfin, il y a une rue devant le
bar. Il y a un trottoir.
Il y a le passage qui fait qu'il est en face.
Voilà, tout à fait.
Languedoc jeudi.
Le vendredi, on invite le Sud-Ouest. Et ce soir-là, il y a le magazine Chasser le Naturel, qui est un magazine auto-édité qui fait son lancement chez nous. J'avais pas précisé, mais il y a un vernissage le jeudi, donc au moment du Languedoc, il y a un vernissage d'Anatole Zang. Donc voilà, Jaja Bauer Festival, on essaye de mettre plein de choses autour du vin.
Photographe, plasticien,
plutôt illustrateur,
illustrateur.
Ouais. Mais j'espère que je dis pas de bêtises. Honnêtement, je me suis pas.
Il faut y aller pour voir.
Voilà.
Pour en avoir le cœur.
Catherine ou Gustave, où est-ce qu'on peut trouver des renseignements sur la Crèmerie Saint-Antoine ou bien le Odessa Comptoir Jaja Power Festival? C'est sur page Facebook, c'est ça? Vous avez des Instagram aussi peut-être, un compte Instagram?
Eh ben voilà,
Catherine,
oui. Bah sur Instagram et Facebook, en ce qui concerne le Jaja Power, vous trouverez toutes les informations.
Odessa Comptoir et Catherine, la Crèmerie Saint-Antoine.
Et nous, il vaut mieux se déplacer, en fait. Le contact humain est très important chez nous. C'est-à-dire que, en fait, je ne suis pas très forte, j'avoue.
Non, mais là, on parle d'un festival aussi.
Là, je viens de mettre sur Instagram qu'on était tous ensemble, là, en ce moment, à parler vin et fromage. Je l'ai mis juste avant de rentrer dans le studio.
Ça a pris trois quarts d'heure, je confirme.
Ça m'a pris beaucoup de temps, je ne suis pas très douée, voilà, j'avoue. Je suis plutôt dans la nostalgie du contact. Naturel.
Le petit commerce, quoi.
Et voilà, et le petit commerce, voilà. Donc, vous aurez toutes les informations nécessaires. On passe des heures à parler des fromages. En fait, si vous nous posez des questions, on sera toujours là pour vous répondre. Il vaut mieux passer en semaine si vous avez un listing de questions assez impressionnant. Passez plutôt en semaine plutôt que le week-end, samedi, dimanche. Mais c'est avec plaisir qu'on discutera fromage. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est que souvent, la majorité de notre clientèle est pas. Presque aussi passionné que nous, voire plus. Et donc, en fait, on nous pose des calls. Moi, je vais rechercher des choses, des infos, parce que je ne sais pas répondre parfois. Voilà, c'est intéressant parce qu'on est tous des passionnés dans cette crèmerie.
Et les horaires d'ouverture, j'y pense un instant peut-être, Gustave, c'est qu'il y a la concurrence peut-être du marché Saint-Antoine qui est en face en matinée, début d'après-midi, et vous n'ouvrez qu'en milieu, début d'après-midi, c'est ça? Vers à 15h, vous ouvrez toujours comme cela?
Alors nous, on ouvre tous les jours, matin, après-midi.
Ah d'accord.
Il y a juste deux demi-journées où vous verrez le rideau tiré. C'est le lundi matin. Et le dimanche après-midi. Mais sinon, on est ouvert tout le temps. En gros, le marché, au-delà d'être un concurrent, est plutôt complémentaire.
Non, oui, c'est ça. Ce terme, c'est maladroit et c'est pas ça.
C'est plutôt complémentaire parce qu'il y a quand même beaucoup de fermiers qui sont sur place et qui vendent leur production. Donc finalement, c'est une production limitée avec soit que du fromage de vache ou soit que du fromage de chèvre ou de brebis. Donc ils sont mono-cheptel. Et ensuite, nous, donc on a 150 sortes de fromages, donc ça veut dire qu'on joue sur la variété et l'exotisme, si on peut
aussi
dire.
On en parlera peut-être après.
On aime ça.
Les dates ont été au vendredi 5, donc Édouard Adam, c'est jeudi 4. Voilà. Le géorgien, quel est son nom déjà au géorgien?
Non, pas du tout, c'est Artana Wines.
Artana Wines.
Voilà, Artana Wines qui présente également le travail d'autres vignerons géorgiens.
Ce vin orange, c'est ça?
Notamment, je pense qu'il y aura, y aura des vins de macération, effectivement.
Languedoc demain jeudi, vendredi, lancement du magazine.
Voilà, vendredi, le Sud-Ouest avec le lancement du magazine Chasser le Naturel. Le samedi, on a le Jura. Voilà, et notamment il y a aussi Émilie Urtubis et Raphaël Bessang du Beaujolais qui seront invités, puisque ce sont des amis de Alice Bouveau qui sera présente. Alice Bouveau, domaine de l'Octavin, c'est un domaine du Jura, bien connu. Le dimanche 7, c'est l'Auvergne, et le lundi 8, on termine avec le Beaujolais.
Fermeture du festival.
Voilà, Voilà, tout à fait. Et alors là, bon, sans rentrer dans les détails, je renvoie les auditeurs au réseau où ils trouveront le programme en détail et notamment les chefs invités. Puisque, voilà, pêle-mêle, il va y avoir le troquet d'essence, l'épicerie culinarise. Voilà, moi je vais cuisiner aussi. Enfin voilà. Pour les détails, je renvoie tout le monde au réseau.
Et tout sera mis en lien, évidemment, sur le site de Spectaculaire, de cette 200. Deuxième.
Émission 202, palindrome. 202, ça se lit à l'endroit et à l'envers aussi, c'est pareil.
Il y en a qui savent faire un petit rythmique comme ça, là.
La pastille.
Dans l'assemblée ou pas?
Il est l'heure de la pastille.
Qui veut faire ça?
Tu veux faire ça, toi?
La boîte.
Il va savoir, lui.
Il va savoir. Oui, il a le sens du rythme, là.
Oui, oui, ah, bah, oui, certainement, oui.
Manigodine, elle dégouline, et la palouse, elle est jalouse, et le minster, il est austère, je dirais même qu'il mène une vie d'enfer. Gorgonzola, il est extra, moins que l'étiva, mais plus que le gouda. Le vieux berger est à tomber, monsieur Manchego, il n'est jamais de trop. Patron, y'a le téléphone qui sonne, ils veulent du reblochon et du stilton. Patron, y'a le téléphone qui sonne, ils veulent du sticheleton et du très bon. Y'a du ferraille qui sent le bétail, du picodon qui est trop mignon. Et le comté, qui est estimé par l'entremise, ses qualités exquises. Brie de Melun est plus malin, et le motet s'habille en châtaignier. Le bon cheddar n'est pas si rare, Madame Boudane ne tombe jamais en panne. Y'a le téléphone qui sonne, ils veulent du reblochon et du stilton. Patron, y'a le téléphone qui sonne, ils veulent du reblochon et du très bon.
Merci patron.
Et c'était le deuxième pastiche. On aura reconnu, hein, peut-être, oui.
Oui, non. Peut-être, même qu'on a un peu massacré sur la fin.
Il y en a un troisième. Non, la rythmique.
Jamais 203.
La guitare était très bonne, si. C'était, c'était très, un son très, très agréable et estival. Un troisième est à venir, auditeur, à 14h et presque 45 minutes. On a encore un peu de temps devant nous, d'autant plus que le blues des canuts ne devrait une nouvelle fois encore pas avoir lieu. Donc, on verra si on déborde. On verra
pas commencer la dégustation, il faut quand même préciser. Non, oui. Hein.
Donc, alors, auditeur, auditrice, on vous invite. Vous, à défaut, vous n'êtes pas passé en nombre suffisant pour la 200e, donc revenez aujourd'hui, 24 rue du Sergent Blandan. Fromage, il y en a beaucoup, Catherine, des fromages, ouais, il y en a plusieurs. Il y aura des fromages, ouais.
Que j'ai apporté, alors ils sont peut-être dans mon top 5, ceux que j'ai apporté.
Ah, on va y arriver.
Bon, un petit commentaire. Alors,
j'avoue quand même, si je peux donner un petit. On va dire une préférence, c'est déjà au niveau du lait. Je suis fan de lait de vache. Je sais, aujourd'hui, on digère mieux le lait de brebis, le lait de chèvre. Mais moi, je digère très bien le lait de vache. Et je trouve que c'est le lait qui apporte un panel d'arômes hyper large et des textures et des temps d'affinage qui, enfin, voilà, c'est très riche ce qu'il apporte, le lait de vache. Je m'ennuie un peu plus avec le chèvre et le brebis. Donc voilà, si je dois donner déjà une préférence sur le lait, c'est celui-ci.
On va faire un petit quiz, un petit tour de la France, un petit quiz. Catherine, vous êtes prête? Attention, je vais donner le nom de fromage, il va falloir nous indiquer leur provenance et leur terroir.
Et est-ce que Gustave peut jouer aussi?
Oui. Bien sûr, tout le monde
s'y connaît. Aussi, oh là là, moi j'ai aucune connaissance.
Tu peux jouer, Christophe.
Moi je connais pas Bibel.
La manigodine.
Alors manigodine, nous on aime bien faire des fromages justement qui sont quand même de la région et qui sont peu connus. Donc en général, les gens qui connaissent Manigo nous disent « Ah, manigodine, ça vient de Manigo ?» Ben oui. Manigodine, on l'a féminisé ce nom car c'était des femmes qui fabriquaient le fromage. D'ailleurs, c'est souvent des femmes qui fabriquent le fromage. Et donc, la manigodine est un, on peut dire, type Mont d'Or avec une sangle d'épicéa, mais en croûte reblochonnée. Mmh. On l'a toute l'année à la fromagerie. En ce moment, elle dégouline beaucoup, d'ailleurs, comme le dit la chanson. Et j'en ai rapporté pour la dégustation.
Ah.
Voilà.
Super. Alors la Palouse, elle reviendra dans le troisième passif.
Alors la Palouse, même région, voilà. Donc les Aravis, bon, on est dans la région, on connaît bien. La Palouse, c'est un peu notre chouchou, c'est-à-dire qu'on a commencé à la crèmerie à essayer de vendre des Saint-Nectaire, puis comme on recevait des choses qui nous plaisaient pas du tout, et ben pendant un an et demi, on s'est permis, alors c'est un des premiers fromages consommés, on s'est permis de pas vendre de Saint-Nectaire parce qu'on n'était pas content. Donc on a vendu de la Palouse à la place, qui n'a pas du tout été appréciée par les Auvergnats. La Palouse étant un gros reblochon avec une texture Saint-Nectaire, mais les arômes, rien à voir avec, avec le Saint-Nectaire, bien évidemment. La Palouse, j'en ai apporté également.
Ah bah
chouchou aussi de la crémière, j'adore.
Le Munster est vosgien ?
Le Munster, c'est parce que je suis vosgienne. Enfin, je suis lorraine, pardon. Et donc, du coup, j'ai choisi un Munster vosgien côté lorrain et pas alsacien. Oula, je pense que je vais me faire des ennemis cet après-midi.
C'est déjà là.
Et surtout, c'était aussi pour dire que la Lorraine est une des régions, une grande région productrice de fromage, et on ne le sait pas parce que le Brie de Meaux est à 80% fabriqué dans la Meuse, donc département lorrain, alors qu'on pense qu'on est dans le bassin parisien, et pas du tout. Et le Munster est à 80% également fabriqué en Lorraine, alors que la connotation Munster, c'est Alsace. Voilà, donc en fait, on fabrique en Lorraine beaucoup de fromages, mais qui ont été, par rapport au Brie de Meaux, ce qui est intéressant, c'est que le Brie de Meaux, il était effectivement dans le bassin parisien, mais quand il a fallu nourrir Paris, on a décalé vers la Meuse, où en fait, on a pu utiliser les prairies qui étaient présentes, et on a fait plutôt de la céréale pour nourrir Paris ensuite.
Gorgonzola, vous en proposez un crémoso, un avec mascarpone ou non?
Non, mascarpone, non, ça on fait pas. On a essayé de faire du picante, mais les gens ont pensé qu'il y avait du piment dedans, donc ça n'a pas fonctionné. On fait un crémoso qui... En fait, le gorgonzola, je l'ai mis parce que je pensais que c'était pas un bon fromage, à la base. Et donc j'ai été... jusqu'à ce que je trouve mon producteur que j'idolâtre. Et aujourd'hui, il a une place centrale à la boutique. On est très fromage italien. Et on a trouvé notre star de Gorgonzola.
Il vient d'où en fait, quelle région italienne?
Alors on est l'Italie, enfin les fromages connus de l'Italie sont tous au nord.
Bah oui.
Ouais, voilà. Même Reggio,
Lombardie peut-être.
Ouais, c'est ça. Donc du coup, donc c'est une AOP.
J'ai aucune connaissance, mais je lance ça au hasard comme ça. Mais Emilie Romane c'est plus bas, je crois, et la Campanie c'est plus bas aussi.
Voilà, hormis la mozzarella qui est quand même connue pour le sud, le reste.
La dioxine.
Et aussi les.
La dioxine. Et la mafia. Non, l'Étiva, c'est la Savoie.
L'Étiva, c'est la Suisse.
Ah, c'est la Suisse.
Et l'Étiva, mon cœur bat très fort. J'en ai fabriqué. Je suis fan. J'ai failli finir dans les alpages à faire à Heidi. Voilà.
Ça m'est évoqué.
Le Gouda.
Voilà. Et ça n'a pas changé. L'Étiva est toujours une star à la crèmerie Saint-Antoine.
Le vieux Gouda, un goût de caramel.
C'est ça. Moi, le Gouda, je pensais que c'était. Ouais. J'ai été élevée au Gouda cumin dans ma famille. Et. Je pensais que le gouda était un sous-produit et en fait on a une aromatique sur des vieux goudas qui sont, mais c'est fantastique.
Hollande, hein.
Et justement, en association avec, là on va peut-être plus, on n'est pas en vin, mais avec des cognacs, avec des.
Uniquement produit en Hollande le gouda. Mimolette, gouda et l'autre troisième c'est.
Non, Mimolette c'est France.
Ah, Mimolette c'est France. Ouais. C'est gouda.
Mais on l'appelle le vieux Hollande.
Ah oui.
Le Hollande.
Boire de l'eau avec du fromage, ça peut se faire ou c'est non hein, Gérald, c'est condamnable, c'est
alors
condamné,
non, parce qu'en fait,
si c'est moins
chimiquement,
il faut le dire.
Le fromage, c'est salé.
Et oui.
Donc ça appelle.
Ça éteint le sel.
Voilà.
Et en plus.
Non, non, mais je
le vieux berger.
Donc, le vieux berger, c'est un
ce vieux berger.
Une grenadine avec peut-être avec du fromage.
Un bébé rose pour entier. Monsieur Manchego.
De la bière, bière et fromage.
Monsieur Manchego, c'est pareil. On veut voyager, on va en Espagne.
Ah, c'est espagnol. C'est une tome de brebis.
Alors, ça, voilà.
C'est les spécialistes de la tome de brebis, les espagnols.
Voilà. C'est vraiment le fromage national, Manchego. On le fait au romarin, la crèmerie. On aime beaucoup. En fait, on essaye de faire des fromages, d'importer des fromages qui ont une vraie valeur ajoutée par rapport à ce qui se fait en France. Et le Manchego au romarin, nous, on a considéré qu'il y avait une vraie valeur ajoutée.
Mais... Reblochon, tout le monde connaît. Stilton,
alors oui, c'est intéressant. Ouais. On fait les deux à une période. On fait un Stilton aux Rivesaltes, ambré du domaine du Rancy.
Languedoc, là.
Ouais.
Et Stichelton, c'est quoi?
Et le Stichelton, c'est un producteur qui a décidé de sortir de l'AOC, de l'AOP, pour faire du lait cru, puisque le Stilton est une AOP pasteurisée. Et quand il a voulu faire du lait cru, on ne l'a pas autorisé, et donc du coup, il est sorti de l'AOP. Donc ça, c'est intéressant par rapport à ce qu'on disait avec Julien tout à l'heure. C'est Monsieur Rebelle, il s'appelle Joe.
D'accord.
Et il fait un fromage unique, donc le Stichelton, avec une consonance, bien évidemment, comme le Stilton.
Un grand amateur de fromage, je ne sais pas si vous le savez, si vous le connaissez, c'est Wallace, de Wallace et Gromit. Il mange avec gourmandise des plats.
Le bon cheddar qui n'est pas si rare.
Il y en a plusieurs de Nick Park. Il y a le Wallace et le lapin-garou. Il y a également tout un tas d'aventures. Non, mais c'est intéressant parce que c'est un Anglais, un Londonien qui bouffe du fromage.
Et le cheddar est
généralement. On a deux cheddars à la boutique. Quand on est en saison, on en a jusqu'à 6 des cheddars.
C'est varié.
La première journée d'ouverture à la fromagerie il y a 4 ans, j'ai reçu un cheddar entier.
Au mois de mars, le 27 mars 2015.
Voilà, et c'était une folie, j'ai reçu ça et je me suis dit comment je vais couper ça, vendre ça, mais j'adore le cheddar. Alors il y a très peu de producteurs en cheddar lait cru, et nous on fait un cheddar lait cru, on le vend, on le sélectionne.
Mais c'est intéressant la question, moi je souhaitais demander un peu peut-être cette précision, la crèmerie Saint-Antoine n'est qu'un espace de vente où il y a une arrière-boutique dans laquelle se produisent des choses
maléfiques ou non,
des opérations, de l'affinage, ça on le dit pas.
Non, alors c'est très intéressant d'aborder le sujet parce que en fait on a des livraisons tous les jours.
On pourrait demander aussi à Odessa Comptoir, les cuisines, ce qui se passe dans les cuisines.
Donc on a des livraisons tous les jours, mais il y a une journée où la livraison est très importante, c'est le jeudi. Donc demain matin, et je m'arrache les cheveux parce qu'on reçoit des choses différentes toutes les semaines, bien évidemment, c'est ça la richesse du fromage. Mais surtout, c'est vrai que le message que je vais passer n'est peut-être pas très positif pour nos producteurs.
Ce sera réécoutable, attention.
Oui, je prends des risques, mais c'est la réalité, c'est qu'on a des fromages qui sont de moins en moins affinés. Et nous, comme on aime le goût, c'est notre leitmotiv, c'est que les fromages aient du goût.
Attention, là, c'est vous reprenez le quick entre vous et nous.
Vous finissez le boulot.
D'accord.
Finissez le boulot, finalement.
Et donc, on fait une phase un peu trop longue d'affinage, à mon sens, puisque nous, on ne peut pas remplacer la première phase, la phase préliminaire de l'affinage, qui doit être faite dans les locaux et dans les conditions d'un producteur.
On va comparer ça à des très très bons fruits biologiques, on va dire, sans traitement, qui sont assez tôt pour mettre dans des cajots qui vont finir de mûrir en caisse parce qu'on ne peut pas les cueillir à maturité parce qu'après ils s'abîment. Mais aussi de ça, ça finit de mûrir en caisse. Alors que le meilleur des fruits, il est cueilli à maturité sur un arbre quand on a la chance d'avoir un verger.
Bien sûr, Gustave, c'est un peu la même chose. C'est tout l'enjeu des vendanges. On sait très bien que c'est la période cruciale pour les vignerons qui doivent vraiment. Là-dessus, il y a. Alors, ça doit être sensiblement différent du fromage, puisque, enfin, il y a une particularité dans le vin. On dit souvent qu'un vigneron, si on s'en tient à une seule cuvée, en fait, finalement, il va faire 40 fois du vin dans sa vie maximum. Donc, en fait, il y a une. Quand on voit les choses comme ça, il y a une quête d'absolu pour le vigneron. La figure du vigneron est quand même une figure assez intéressante.
Forme de folie quand même. Enfin,
complètement.
Comment nommer ça? Enfin, il y a une manie. Enfin, c'est.
On comprend complètement. Du coup, c'est emprisonner un millésime dans une bouteille. Donc c'est vraiment de la poésie, voilà. Mais bon, donc bref, donc le moment des vendanges, c'est vraiment le moment précis. Là, ça fait appel au savoir-faire de savoir quand est-ce qu'il faut effectivement bien cueillir les raisins au bon moment.
On peut se planter sur une vendange. On peut la faire tomber trop tard.
C'est l'enjeu crucial de l'année, en fait. Enfin, en fait, non, tout est en jeu, puisqu'il y a la taille, il y a plein de choses.
C'est le premier, c'est ça, peut-être, ou quoi que non, le premier de l'opération ensuite qui conduit au vin, c'est ça. Enfin, quoi que non.
Oui, et puis c'est enfin, en tout cas, moi, de ce que je connais, parce que je suis loin d'être un spécialiste, je pense que j'aurais vraiment invité un vigneron, enfin, qui en parlerait plus précisément. Mais en tout cas, voilà, du coup, pour répondre à la question, c'est le moment, effectivement, puisque en général, tout de suite après, il n'y a pas de phase où, sauf où, en fait, j'allais dire une bêtise. Il y a certaines phases, effectivement, on, dans certains terroirs, pour certaines appellations, pour des vins très précis, je pense notamment à des vins du Jura.
Vendange tardive et tout ça.
Bah, je pense plus aux vins de paille, où justement, en fait, on laisse les raisins sécher. Dans les greniers de paille, voilà, où on va chercher certaines choses, des concentrations de fruits en fait, de sucre. Donc ça peut exister, mais en fait c'est rare dans le sens où ça va définir vraiment des typicités de vin très précises. Mais on va dire en règle générale, effectivement, on fait les vendanges et puis ensuite on presse ou on met en cuve selon que ce soit des blancs, des rouges, des rosés, les types de vins. Enfin, comme j'expliquais tout à l'heure, la différence avec les vins orange. Et ensuite c'est le moment de la fermentation.
Bon, on a perdu beaucoup de choses en abandonnant le foulage au pied, peut-être. On en reparlera plus tard. Le Pérail, on passe, tout le monde connaît.
Ah, il a
le
Pérail, Picodon, c'est le danger des listes. C'est
Melun, le Motet.
On va pas aller.
Et Madame Boudane, c'est qui Madame Boudane?
C'est une tome de Savoie.
D'accord.
Mais en tout cas, moi, il y a deux choses qui m'ont été évoquées, non, mais que j'écoutais tout à l'heure, quand je t'écoutais, du coup, énumérer un peu la liste et puis du coup répondre, expliquer,
renseigner
sur les différents fromages. C'est en fait ce qui est drôle, c'est exactement ça. C'est tu nous expliquais comment est-ce que sur des appellations qui peuvent parfois faire partie des lieux communs de ce qu'on pense être du fromage, mais en fait c'est beaucoup plus complexe, c'est beaucoup plus vivant. Derrière il y a une histoire que toi tu mets en jeu qui tu vas réactualiser. La manigodine du coup c'est un très bon exemple de ce point de vue là si j'ai bien compris. Moi ça m'évoque exactement ce qui se passe chez nous du côté d'Odessa, mais globalement du côté du vin. C'est cette actualité-là qu'on essaye de représenter.
Deux soirées peut-être auxquelles venir éventuellement, Gustave, pour terminer, parce que je pense qu'on va terminer sur le pastiche. C'est la soirée d'ouverture ce soir, c'est ça, le vin géorgien, et puis samedi peut-être avec Languedocien, c'est vendredi, samedi c'est le Jura.
Ouais.
C'est votre top 1, non, c'est
le Jura, mais c'est un terroir que j'aime beaucoup. C'est un terroir. Je pense que pour les amateurs de vin naturel, c'est un terroir très recherché. Aujourd'hui, c'est très compliqué de trouver du. Enfin, c'est très compliqué. Ça part dans les. Beaucoup au Japon, aux États-Unis, les gens sont fanatiques de ces terroirs-là. Donc oui, si vous avez l'occasion, c'est en plus des choses qui sont pas très connues, nous, en France, etc. Le Jura, on connaît un peu, mais on n'a pas l'impression que c'est vraiment, il y a vraiment des bijoux. Donc ouais, moi je parlerai du Jura, mais en fait venez
donc,
tout simplement.
Une programmation bien bâtie. Le samedi c'est peut-être le moment où justement les gens pourraient venir, mais
bien sûr.
L'absolu, a priori à partir de 17h, 18h, 19h, on peut venir n'importe quelle soir de la semaine.
Entrée libre.
Mercredi, aujourd'hui jusqu'à lundi prochain.
Tout à fait.
Du 3 au 8, deuxième édition. Il y aura une troisième, quatrième, cinquième, ouais, c'est parti pour durer.
Sans doute, et puis on espère faire des jaja hors les murs et voilà, développer un peu tout ça.
Partenariat avec excellente fromagère.
Ouais, par exemple.
pour achever Gérald, c'est peut-être nécessaire ce terme de jaja.
Oui.
Il vient d'où? C'est quoi? C'est
alors le jaja, il y a une
un terme d'argot.
C'est borisien. Je bois n'importe quel jaja, non?
Ouais. Et alors
c'est
il paraîtrait
le tube de borisien. Années 50.
Oui, non, mais bien sûr,
c'est
mais en fait, il paraîtrait que c'est une expression qui vient du yiddish, et a priori de, je crois que c'est ça, du juif alsacien, et que yaya en fait c'est un diminutif pour le vin interdit, boisson interdite.
D'accord.
Voilà, le vin qui est, alors je pense du coup ça devait être le vin qui n'était pas cachère, donc c'est le petit vin, le mauvais vin, etc. Et nous c'est comme on dit ça, un coup de jaja, c'est un coup de vin quelconque, quoi. Mais aujourd'hui on lui redonne ses lettres de noblesse. Voilà,
bon, dicton de Saint-Chamond, je crois. Bois un ch'ti canneur, tu seras moins cœur. Donc voilà, c'est très bien. Dédicace
les Lyonnais.
À tous nos auditeurs et nos auditrices stéphanoises, voilà. Ligériens, ligériennes. On termine avec un pastiche.
Alors,
est-ce qu'on remettra les vendanges de l'amour peut-être?
Pas cette fois.
Mais c'est quand même bon comme générique ça.
Ouais. Les vendanges de l'amour, oui. Vous voulez tout savoir sur le vin naturel, vous vous rendez au Jaja Power. Vous voulez tout savoir sur le fromage, on pourrait encore faire des émissions. Vous allez à la Crèmerie Saint-Antoine. Et si vous voulez découvrir des nouveaux noms de fromage, la boucle va être bouclée. On a commencé avec Pierre Perret. Il y avait une petite Un petit clin d'œil derrière tout ça, non?
Il aurait fallu faire des annonces, Gérald, mais au moins j'ai grainé non. Au moins j'ai grainé non. Musée des moulages, allez-y,
gratuit.
C'est très agréable.
Mercredi, samedi après-midi.
L'exposition Bibliodyssée, qui se tient au musée de l'imprimerie et de la communication graphique, est absolument fascinante. Bon. C'est stupéfiant, c'est délirant.
Jusqu'à quand?
C'est absolument génial, c'est jusqu'au 22 septembre. Bon, peut-être voilà, qu'on en parlera en septembre prochain. Oui, l'exposition Steve McCurry, l'espace est climatisé. Donc voilà, 200 photos.
Très célèbre de cette jeune femme, jeune fille, les yeux bleus, là, qui.
L'Afghane, alors 200 photos, c'est peut-être un poil trop, mais c'est bien d'être...
Elle est toujours à la sucrière jusqu'à quand?
Et puis c'est jusqu'à la fin juillet. Mm-hmm. Donc il reste encore 2-3 semaines. Et puis, Nuit de Fourvière, il reste encore différents concerts à venir. Midnight Oil, le 9 juillet. C'est très bien, on pourrait y aller puisque Jaja Power sera terminé. Et puis c'est tout. Cinémascope et puis Berlioz. J'aurais aimé beaucoup parler du festival Acte 2 du 150e anniversaire du festival Berlioz qui se tient à la Côte-Saint-André du 17 août au 1er septembre. Il y aura notamment 3 soirées, mais absolument fabuleuses. Roméo et Juliette, dirigée par Valérie Gergiev, j'allais dire compositeur, directeur, enfin chef d'orchestre russe. C'est le mercredi 28 août, avec il sera à la tête du théâtre, de l'orchestre et chœur du théâtre Mariinsky. Le jeudi 29, le lendemain, Benvenuto Cellini, de l'orchestre révolutionnaire et romantique dirigé par, avec le Monteverdi Choir, dirigé par John Elliott Gardiner. Et puis on peut peut-être sauter à la soirée du 30 août, et le samedi 31, la damnation de Faust. C'est quand même génial ça. Dirigé par Tugan Sokiev, le directeur permanent de l'orchestre national du Capitole de Toulouse. C'est à la hauteur de l'émission d'aujourd'hui et de nos invités, c'est le top level, le high level, c'est le gratin, la Gergiev, Sokiev et puis John Elliott Gardiner, c'est ouais. les noms de la musique pour Berlioz. Festival Berlioz, il faut y aller, la Côte-Saint-André. C'est vrai que la Crèmerie Saint-Antoine et le Odessa Comptoir, c'est vraiment à côté, hein. C'est à deux pas. D'ailleurs, auditeurs, auditrices, si vous avez le temps maintenant, dégustation, c'est ça Catherine? Si vous ne venez pas, c'est pour nous, hein. On a du vin également, hein. Gustave, donc...
Oui.
On achève avec un.
On a raté Magma et King Crimson, qui est phénoménal à Fourvière. Hein.
Mais il y a plein de choses qu'on a ratées.
Tout voir, tout entendre.
Nuit de Fourvière, elle se termine fin juillet. Il y a aussi Jazz à Vienne qui a lieu. Ben Harper a été. Il y a eu une tempête. La date est décalée. Donc ça devait avoir lieu le 1er juillet. C'est décalé. Il y a une date au 20 juillet. Donc les festivaliers qui avaient prévu d'aller voir Ben Harper. Mais on peut l'écouter, c'est bien. Quoique non, le festival vivant et le fromage et le vin, il faut le boire et le manger et le vivre.
Et le vivre?
Et le vivre. Le vin vivant, il faut le vivre. Ultime pastiche. On se dit au revoir, auditeurs, auditrices. Oui, on
termine. Au revoir. Bel été à toutes et à tous.
Merci Gustave, merci Catherine, on termine, vous allez reconnaître ce que c'est.
Ils sont livrés serrés dans leur caisse au gué au gué. La crémière les touche avec tendresse au gué au gué. Elle vérifie leur état, elle les goûte, ça va de soi. Elles s'enivrent de leurs odeurs, ça la met de bonne humeur. Les clients deviennent tous hystériques, ils veulent surtout des fromages de bique. Elles nous parlent palouse des aravis au gué au gué. Bien sûr c'est celle qui nous pousse au vice au gué au gué. On découvre la tome au chenou, oui c'est celle qui nous rend fou. Paraît même que le bleu jex vous donne des envies de sexe. La manigodie nous rend coquine, c'est quand même bien mieux qu'une aspirine. Tout, 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 vous saurez tout sur le fromage, le jaune, le vieux, l'orange, le bleu, le dur, le mou qui a des gros trous, le poil de chat, le gros tout plat, le gros cendré, le petit carré. Tout, 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 je vous dirai tout sur le fromage. Des fromages, y'en a toutes les couleurs, au gué, au gué. Des croûtes lavées jusqu'aux croûtes aux fleurs, au gué, au gué. J'en ai vu des bien frottés, qui sentaient beaucoup les pieds. J'en ai vu de moins affinés, qui m'ont bien affligé. Suis fabriqué dans le chaudron de cuivre, dont tous les arômes nous enivrent. Y'a le fromage tout sec, saponifié, au gué, au gué. Celui qui finit par dégouliner, au gué, au gué. J'ai vu celui tout creusé par les artisans corsés qui te laissent le palais toujours plus aiguisé. Un fromage qui vire à l'ammoniaque te met toujours un peu plus lagnaque. Vous saurez tout sur le fromage, le jaune, le vieux, l'orange, le bleu, le dur, le mou qui a des gros trous, le poil de chat, le gros tout plat, le gros cendré, le petit carré. Tout, 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 je vous dirai tout sur le fromage.
L'atome au foin reste pas dans son coin, ogé ogé. Et c'est avec un peu de pâte de coin, ogé ogé. J'ai kiffé le bleu de Bonneval. J'avais même pas la dalle. Mais avec l'étiva, j'en suis resté baba. Le picodon m'est odieux le fils. J'en suis encore tout abasourdi. Le Saint-Marcellin fait le malin, ogé ogé. Sans doute qu'il narde le bris de Melun, ogé ogé. Et pour finir en beauté, bien sûr il y a le comté. Avec tous ses affinages, pas besoin de racolage. Le motet sur feuille me fait de l'œil. Vraiment impossible d'en faire le deuil. Tout, 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 vous saurez tout sur le fromage. Le jeune, le vieux, l'orange, le bleu, le dur, le manque, il y a des gros trous, le poil de chat, le gros tout plat, le gros cendré, le petit carré. Tout, 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 je vous dirai tout sur le fromage.
Allez, on déguste. Allez, dégustation. Bel été.
Terminons les émissions à venir. Pas de blues des canuts, auditeurs, auditrices. Là, on est en train de dépasser. Ce n'est pas Pascal au micro. On achève spectaculaire. À venir ensuite, on n'arrête pas le prog. Mayday. Non, non, je crois qu'on t'a arrêté leur programmation. En revanche, le Canu Info, ça aura bien lieu à 19h. Restez à l'écoute des programmes de Radio Canu avec les bandes continues notamment. Et il y a encore beaucoup de choses à venir. Nous, nous nous retrouvons à la rentrée en septembre. Je dis coucou à tous ceux qui étaient présents. Je crois qu'on avait beaucoup d'auditeurs en masse aujourd'hui. Il me semble Ambre, je crois. Cyprien, Flavien également. Même une Rosemary au début. Que de monde. Les amis, bonjour. Bonjour à tous, bye bye, bon été. Merci Catherine, merci Gustave, merci Gérald. Salut, bye bye, salut.
Salut.